Il y avait deux matchs de play-off de la conférence Est hier au programme, avec notamment le fameux Game 6 entre les Sixers et New York. La série repartait à Philadelphie et on était bien à Philadelphie. Faut avouer que l'ambiance était plus une ambiance de match à domicile qu'au match précédent. Victoire au bout du suspense, vraiment, de ce match qui aurait été palpitant jusqu'au bout, 118-115 pour les Knicks, qui s'imposent donc et qui accèdent pour la deuxième année consécutive aux demi-finales de conférence. Sortie prématurée pour les Sixers, dans un contexte particulier sur lequel on va pouvoir revenir. Shai, qu'est-ce que tu retiens? Qu'est-ce que tu as ressenti pendant ce match? Est-ce que tu as cru à un moment qu'une équipe avait fait le break pour de bon? C'est vrai que ça, c'était des allers-retours sans cesse.
Bah, ce que je retiens, c'est que, bon, forcément, en amateur des Knicks, je dis pas fan, hein, parce que je suis fan de New York plus que des Knicks, mais c'est fou de se dire que là, ça va être, tu l'as dit, ça va être la deuxième demi-finale de conférence de suite. Il y a pas si longtemps, on était dans un tel océan de médiocrité à tous les étages à New York que ça paraissait invraisemblable. Donc ça, c'est plus pour ce que je retiens après le match. Et le match en lui-même, bah, ça a encore été, enfin, cette série, elle était vraiment, vraiment magnifique, parce que il y avait tout ce qu'on aime. Tout ce qu'on aimait bien dans des séries avant, qu'on retrouvait plus, tu sais, toujours de la tension, toujours un semblant de bagarre dans le bon sens du terme. Des matchs extrêmement serrés, parce que tu sais que, je sais pas si tu as vu, mais si tu fais le total des points marqués pendant cette série, les Knicks gagnent que d'un, sont à plus un en fait. Sur les 6 matchs, ça te montre à quel point ça a été serré, 650 à 649. J'avais noté ça. Autant il y a des séries où il y a bah, parfois des matchs sans de la part d'une ou l'autre équipe, autant là, on a eu. Six guerres, quoi. Six bastons, et c'était ça, c'est ce que je retiens de l'atmosphère générale de la série. Et puis qu'est-ce que je retiens d'autre que Jalen Brunson est incroyable, que les Knicks sont aussi résistants mentalement que ce qu'on pouvait espérer, et que les Sixers ont été aussi, malheureusement pour eux, un peu trop justes comme on l'attendait.
Ouais, ce qui est intéressant, c'est que après le dernier match, Shai, quand on en parlait, on se posait des questions sur la fraîcheur, notamment des joueurs des Knicks, les nombreuses erreurs qui ont émaillé la fin du temps réglementaire dans le match 5. Moi, j'ai été épaté de voir l'entame de match, en fait, de New York, les joueurs me semblaient super frais, au début du match. Brunson, t'avais l'impression qu'il avait retrouvé tout son peps et son dynamisme. New York, donc, qui a mené de 22 points en première mi-temps, quand même, avant de se faire reprendre. Tu parlais de Jalen Brunson, termine avec 41 points à 13 sur 27 au tir, 3 rebonds, 12 passes, 2 balles perdues. Match énorme de Jalen Brunson, et sur la fin, puis après on va pouvoir revenir sur le déroulé de ce match incroyable. Pour le coup, les Knicks n'ont pas tremblé, ça s'est quand même réglé quasiment sur des lancers francs. Josh Hart qui fait 2 sur 2 pour finir, Jalen Brunson qui fait 2 sur 2 pour finir, alors que tous les deux avaient raté des lancers francs, si je ne me trompe pas, pour Hart, c'est sûr, en tout cas à la fin du temps réglementaire du match 5. Les starters de New York ont été incroyables. C'est simple, ils ont mis tous les points sauf 5, puisque 5 points seulement venus du banc pour New York hier. Match plein de la part des starters, qui le plus petit temps de jeu, c'est 30 minutes pour Hartenstein. Tous les autres ont joué derrière entre 44 et 48 minutes.
Ouais, les starters ont été incroyables. Bah, c'est encore, on réinsiste sur les trois de Villanova, Josh Hart, Dante DiVincenzo et Jalen Brunson. Mais Josh Hart, que tu évoquais pour son adresse sur la ligne, il met un panier à 3 points hyper important à 23 secondes de la fin, quelque chose comme ça, qui leur permet de reprendre. Je crois que c'est à ce moment-là qu'il repasse en tête et qu'après il relâche plus l'avantage. Ça se joue effectivement sur la ligne derrière. Il y a eu encore du cœur, de la bagarre, c'est cette identité des Knicks. Et ouais, ils avaient vraiment, vraiment démarré fort. Derrière, ils se sont un peu effondrés. C'est là que j'ai eu peur. Tu me demandais tout à l'heure, est-ce qu'à un moment, j'ai senti que ça allait pas? Quand j'ai vu Philadelphie revenir et repasser devant, parce que, au final, malgré le retard pris, les Sixers ont fini la première mi-temps en tête, je me suis dit que ça sentait peut-être pas bon, et que là, il y avait peut-être, que les Knicks tiraient peut-être trop la langue et que ça sentait pas bon.
Ouais, parce que dans le deuxième quart-temps, les Sixers sont placés à 2 reprises, hein, 11-0, pour gommer l'écart, puis pour finir de le reprendre complètement.
Ouais, c'est ça. Malgré ça, derrière, les Knicks ont réussi à trouver les ressources. On se demande d'où ils vont les chercher à chaque fois. C'est mental, c'est physique, mais ils y arrivent, et ils survivent à un bon match, voire très bon match de Joel Embiid, malgré la condition qu'on a évoquée. Il fait 39 points, 13 rebonds. Il a vraiment fait ce qu'il a pu. Il a été peut-être pas assez aidé par rapport à d'autres rencontres, hein. On se souvient du match de Tyrese Maxey, le dernier, qui était incroyable. Là, au niveau de ses coéquipiers, ça a été un peu moins probant et il s'est retrouvé trop seul, je pense, au moment où il aurait fallu donner du répondant à Brunson, à Josh Hart, au Knicks, quoi.
Ouais, c'est clair que ce qui était passionnant dans ce match-là, c'est je trouve qu'on voyait vraiment les choix aussi des entraîneurs. Tu parlais du tir à trois points de Josh Hart, je vais revenir dessus brièvement parce que tu as raison, c'était vraiment le tournant de ce match sur la fin. C'est un moment où juste à nouveau Philadelphie était en train de revenir au score en faisant des prises à deux systématiques sur Brunson dès qu'il touchait la balle. Donc il y avait le choix de faire prise à deux sur Brunson. Ils n'ont pas voulu laisser DiVincenzo tout seul qui fait un bon match parce qu'il était un petit peu aux abonnés absents. DiVincenzo, là, il finit avec 23 points à 5 sur 9 à 3 points, donc il ne voulait pas le laisser tout seul. Et on sait que Josh Hart, c'est certainement le moins fiable de ces joueurs-là. Donc il y a eu le choix de le laisser momentanément tout seul. Finalement, Kelly Oubre vient contester le tir, mais un peu trop tard. Et voilà, je pense que en tant qu'entraîneur, pour Nick Nurse, ce tir-là, en fait, tu peux pas être dégoûté. En fait, tu as empêché Brunson de prendre le tir qui était vraiment ta première priorité. Tu contiens DiVincenzo et Anunoby qui a été très bon aussi à nouveau en les empêchant de prendre le tir. C'est Josh Hart qui le prend et qui te crucifie quelque part. Ça c'est le jeu, quoi. Mais il y a eu plein de choses qui étaient intéressantes. Tu parlais des Sixers et du fait que Joel Embiid était un peu esselé. Embiid était incroyable, franchement, c'est quand même quel joueur. Tu dis, il est sur un genou, il est totalement inarrêtable, il a ce qu'il veut dans le jeu. 13 sur 13 au lancer franc, il a été d'une régularité incroyable. Faut quand même noter effectivement la super belle perf de Buddy Hield qu'on avait complètement oublié. Moi, ça, je ne comprenais même pas pourquoi il rentrait même pas sur le terrain. Là, il finit à 20 points, il en met 17 dans la première mi-temps et il participe beaucoup à ce retour en force des Sixers. J'ai l'impression qu'effectivement, finalement, l'aide est venue d'endroits dont. Du côté des Sixers, finalement, l'aide est venue de joueurs qu'on n'attendait pas forcément. Buddy Hield qui finit avec 20 points. Nicolas Batum, excellent en défense et qui signe aussi 16 points, 7 rebonds. Voilà, ça a été. Nick Nurse a quand même trouvé des solutions pour aider Joel Embiid, sachant que les Knicks avaient vraiment fait. Je trouvais que la manière dont ils ont défendu sur Tyrese Maxey tout du long était admirable, en le lâchant pas, en venant systématiquement dans les aides pour contester sans l'envoyer sur la ligne des lancers francs autant que par le passé. Il a que 4 lancers francs sur ce match, il finit à 4 sur 4. Voilà, j'ai trouvé que vraiment tu sentais qu'il y avait eu des plans de jeu de part et d'autre qui avaient été hyper bien préparés.
Ouais, Maxi a limité à, donc 6 sur 18 au shoot, effectivement, ça, les Knicks ont insisté dessus. De toute façon, avec ce qu'il leur a fait au match précédent, ils avaient forcément un œil attentif sur lui. T'as raison, Nico Batum a été très bon, 3 sur 5 à 3 points. Finalement, ce qui est un peu étonnant, par exemple, on en parlait entre nous avant de commencer, mais c'est pas pour l'accabler, hein, mais les gens se sont beaucoup attardés sur les stats de Tobias Harris, qui est peut-être à la base, peut-être le numéro 2, voire le numéro 3, plutôt maintenant que Maxi est devenu le joueur qu'il est devenu de cette équipe, c'est le numéro 3, on va dire, et puis avec un contrat qu'il a pas volé, hein, c'est les Sixers qui lui ont donné. Tobias Harris, qui en quasiment une demi-heure de jeu, met pas le moindre panier, prend que 2 tirs, a pas l'activité d'un joueur avec ce contrat aussi élevé. Alors il a défendu aussi bien que possible, ça on peut pas lui enlever, mais je sais que les gens se sont un peu attardés dessus. Pareil pour Kyle Lowry qui joue que 13 minutes alors que c'est le joueur le plus expérimenté du roster, qu'il a gagné des titres. Certes, on sait qu'il est un peu vieux, mais c'est juste que je sais que les gens se sont attardés un peu sur ces joueurs-là et qu'ils ont été surpris de revoir Buddy Hield qui était en échec et qui c'est quoi, c'est dans le deuxième quart-temps, il met 5 paniers à 3 points, je crois. Enfin, il était vraiment chaud. Donc il y a eu de l'aide, mais c'est juste peut-être pas celle qui était escomptée de la part des Sixers.
Ouais, c'est clair. Bah, pour Tobias Harris, j'entends, hein, effectivement, par rapport à son salaire, son statut. Là, sur ce match, honnêtement, j'ai pas eu du tout l'impression que le plan de jeu l'impliquait offensivement. Il prend que 2 tirs, mais c'est pas comme s'il en avait refusé, en fait. Je sais pas si ce que t'en as pensé, Shai, tu vois, mais finalement, il a peu touché la balle. Par contre, moi, je l'ai trouvé très bon en défense à nouveau. Voilà, il a joué il était dans un statut de role player. Je comprends les critiques si on dit, c'est pas assez pour cette somme-là, mais pour le coup, c'est un joueur effectivement qui s'est planté en play-off ou dans des matchs importants. Là, j'ai pas particulièrement eu le sentiment que c'était le cas sur celui-ci. Du moins, j'ai l'impression que c'était plus le plan de jeu qui n'était pas orienté vers lui, quoi.
Ouais, non, probablement. Mais je repense à Josh Hart là parce que je suis en train de regarder les stats. Il prend encore 14 rebonds, donc 16 points, c'est bien pour lui. Ça, c'est plutôt une bonne performance pour lui. 14 rebonds, 7 passes. Enfin, c'est le mec qui fait absolument tout sur le terrain. C'est toujours lui qui donne le tempo. Enfin, le signal du moment où il faut tout lâcher au niveau énergie. Il est c'est un joueur incroyable. Quand je repense à son début de carrière aux Lakers et tout, après lui, il était dans le trade vers New Orleans. Enfin, c'est un joueur étonnant et il pouvait pas trouver meilleur endroit, je pense. C'est fou comme parfois tu as des trades qui sont parfaits, des joueurs qui arrivent à des endroits absolument parfaits pour eux. Et Josh Hart, il est bluffant de match en match. Je le trouve vraiment incroyable.
Ouais, et puis il y a deux moments où on a l'impression qu'il se blesse sans qu'on comprenne
Ouais.
trop pourquoi. On voit sur les ralentis, il a l'air de se faire mal un peu tout seul finalement. Je te dis, il a joué 46 des 48 minutes possibles. Match énorme. Brunson aussi, voilà, très fort. On va pas revenir sur tous les joueurs des Knicks. C'était vraiment, et encore une fois, c'était vraiment serré jusqu'au bout. Ça se joue littéralement à rien. Le tir à 3 points de Hart, les lancers francs, là, vraiment, les Knicks qui n'ont pas tremblé. Pour le coup, on a vu littéralement, ils ont fait l'option de faire faute pour envoyer Maxey au lancer franc, justement, sur la fin. Et on a vu, à l'image, vraiment, Tom Thibodeau appeler Josh Hart pour lui dire, après Josh Hart, aller voir chacun des joueurs pour leur dire, attention, on fait faute cette fois, etc. Là, tu sens que sur la communication, c'était beaucoup plus clair qu'à la fin du match précédent.
Ouais, clairement. Bah, de toute façon, ils ont retenu tout, enfin, beaucoup en ont parlé. On en avait discuté hier. C'était des choses à éviter. C'est bien qu'ils aient retenu la leçon et que cette fois, il n'y ait pas eu cette situation-là. J'étais aussi en train de repasser. Pardon, du coup, mes pensées se dispersent un peu, mais j'étais en train de me dire, pareil, en regardant le box score, que du coup, c'était peut-être le dernier match de Nicolas Batum en carrière, en club en tout cas. Parce que je me disais qu'il avait fait vraiment un très très bon match des deux côtés du terrain et. De ce qu'il se disait, c'était peut-être sa dernière saison et ce serait presque dommage vu le niveau qu'il avait encore à Philadelphie cette année. Il serait tout à fait capable encore de jouer pour un contender dans un rôle comme celui-là. Et j'en viens presque à espérer qu'ils disent non, non, c'était une fausse alerte. C'est ma compagne qui a été un peu trop vite. Ce serait pas mal. Mais bon, dans tous les cas, on l'aura aux Jeux Olympiques et j'espère en tout cas personnellement que c'était pas son dernier match.
Ben, oui, pareil, honnêtement, je trouvais ça quand même assez étonnant parce qu'il a été bon dans cette série, hein. Alors, parfois au scoring, parfois pas au scoring, mais je pense qu'il a encore les ressources pour aider des équipes ambitieuses. Défensivement, il est toujours aussi fiable. Là, son adresse à 3 points à nouveau dans le jeu. À un moment, il met une claquette dunk aussi. Il va chercher un rebond offensif qui finit en claquette, qui est important dans le comeback de Philly au moment où il joue small ball. Je pense qu'il a encore des choses à donner. En tout cas, c'est sûr et certain que des clubs seront intéressés par son profil et viendront frapper à la porte cet été, que ce soit Philadelphie ou d'autres. Ça me semble inéluctable. Bon, bah voilà, de toute façon, on reviendra, hein, sur cette équipe des Sixers plus tard, plus en détail. Vraiment intéressant pour New York qui passe un tour. Et comme tu l'avais dit, je crois, c'était hier matin, Shai, ou un peu avant dans la semaine. Là, je ne serais pas étonné. Enfin, tout est en place quand même pour qu'il y ait l'objectif de au moins faire une finale de conférence soit totalement jouable pour cette équipe des Knicks.
Bien sûr. Et du coup, j'ai une stat que j'avais notée et que j'ai oubliée ce matin. C'est très décousu, désolé, mais sur Jalen Brunson, dont on a parlé rapidement tout à l'heure, mais pour vous montrer à quel point il est sur un niveau assez incroyable. On parle quand même d'un joueur qui a pas été recruté pour être la superstar de l'équipe, en tout cas à la base. Là, avec ce match à 41 points, c'est devenu le premier joueur en NBA depuis Michael Jordan en 1993 à faire 4 matchs de suite à au moins 37 points en playoff. Il n'y a personne d'autre qui l'a fait, à part Jordan depuis 93. Et pourtant, il y a un paquet de joueurs qui sont passés. Et on peut dire le jeu a évolué, l'attaque, c'est de l'attaque à tout va et tout ça, mais c'est quand même, ça reste une performance que je trouve ahurissante. Il n'y avait aucun joueur des Knicks, à part Bernard King, qui l'avait fait avant lui. Et bah, dans ma réflexion, pareil, on en reparlera peut-être même après les playoffs, en fonction de ce que Brunson et les Knicks font, mais il est en train de grimper les rangs des Knicks all-time en très peu de temps, de manière assez incroyable. On disait, ouais, est-ce qu'il se mettra à la hauteur de Carmelo Anthony? Mais là, j'adore Melo, mais il est déjà en train de le balayer. Il a fait deux demi-finales. Il a déjà fait des trucs au scoring que Melo n'a pas fait. Il est en train de se rapprocher plutôt de quelqu'un comme Bernard King, qui est moins connu du grand public aujourd'hui, mais qui est un mythe local aussi. Donc, juste voilà, un petit big up à Jalen Brunson encore, qui statistiquement et dans le comportement est un joueur absolument incroyable.
Ouais, et puis j'en profite pour ajouter ça, c'était vraiment intéressant de voir tout au long de la série comment il s'est adapté aussi. La longueur des défenseurs des Sixers l'ont beaucoup perturbé. En fait, on voyait notamment souvent Kelly Oubre ou Nicolas Batum d'ailleurs jouer derrière lui, venir perturber au moment de son tir, le laisser prendre les pics finalement et venir le gêner dans le mid-range en passant par derrière. Et là hier, c'était l'exemple parfait. En fait, il a vraiment su adapter son rythme. Par exemple, quand t'as dû le voir, Shai, quand il prend quand il prend les pics, donc son défenseur suivait et il faisait ce qu'on a, les Américains appellent putting jail, c'est-à-dire que tu le gardes en prison, tu gardes ton défenseur dans ton dos et il gérait beaucoup mieux. J'ai trouvé ce moment où il ralentissait vraiment avant de réaccélérer pour créer la séparation et de s'arrêter de manière hyper abrupte. Il y a deux fois où il prend le tir comme ça et où il met un coup de tête involontaire à Kelly Oubre et à Nicolas Batum qui sont trop près de lui. Et pour le coup, il fait pas du tout faute offensive parce qu'il prend vraiment son tir en montant droit comme un i sans se jeter en arrière comme pouvait le faire James Harden ou Trae Young au moment où les arbitres avaient un peu réglé le tir là-dessus. J'ai trouvé que c'était intéressant de voir cette adaptation technique aussi d'un joueur en cours de série et comment il avait pu finalement retrouver un petit peu son efficacité.
Ouais, c'est surtout qu'il avait, le début de la série était compliqué au niveau de l'adresse, on en avait parlé, il shootait pas bien, même les matchs où les Knicks gagnaient, c'était pas forcément incroyable, et là, t'as raison, l'ajustement est spectaculaire. Et je rappelle que c'est un joueur qui a signé pour 4 ans 104 millions. Sur le coup, beaucoup de gens ont dit « Oula, au-dessus de 100 millions, ça fait peut-être cher pour un joueur comme ça qui était un bon joueur à Dallas, mais pas une star. » Au final, là, le contrat, c'est une affaire en or, quoi. Il va toucher… l'an prochain, il sera à 24 millions. Regardez, faites la comparaison avec les d'autres joueurs qui gagnent cette somme-là. C'est pas pour dire un tel ou un tel mérite pas. Hein. Je veux dire, les mecs, je suis content pour eux quand ils signent des gros contrats, c'est la récompense de travail. Et puis, c'est des franchises qui leur donnent cet argent. Mais là, c'est une affaire incroyable. Enfin, il sera même pas à 25 millions la saison l'an prochain. Donc, incroyable coup des Knicks qui date maintenant d'il y a deux saisons.
Ouais, très belle opération. Allez, on va changer de match. On reste dans la conférence Est. Il y avait le face-à-face entre les Pacers et les Bucks. Les Bucks toujours privés de Giannis Antetokounmpo, mais avec Damian Lillard qui a pu participer à ce match. Victoire malgré tout, 120-98 d'Indiana. Les Bucks ont vendu cher leur peau. Ils ont été distancés au score, ils sont revenus, mais finalement à chaque fois Indiana a retrouvé une capacité toujours à accélérer à nouveau, à remettre de l'écart entre Indiana et Milwaukee. Et au bout du compte, je pense que les Bucks étaient tout simplement pas suffisamment armés pour revenir dans la série.
Non, c'était trop compliqué. En plus là, ce que je notais ce matin, c'est qu'il y a même pas eu besoin d'avoir un match énorme des deux stars des Pacers à Liberton et Siakam qui ont été bons. Hein, Liberton fait 17 points, 10 passes et Siakam 19 points. Mais c'est vraiment les role players que je trouve qu'on fait la différence pour Indiana. Toute la saison, on a parlé, si vous nous suivez, on a parlé de TJ McConnell en sortie de banc, le mec ultra précieux qui peut jouer n'importe où, être une plus-value absolument n'importe où. Avec Antoine, on l'avait même mis numéro 1 quasiment des joueurs qui jouent généralement moins de 30 minutes. Les MVP de cette catégorie-là, on a mis McConnell dans les finalistes. Il a encore été. Qu'est-ce qu'il est fiable, qu'est-ce qu'il joue juste. Là, il fait 20 points, 9 passes, 4 interceptions. Il change la dynamique au moment où les Bucks, tu t'en parlais, il y a des moments où ils ont réussi à recoller un peu, mais il change toujours la dynamique. Et en tandem presque avec Obi Toppin, qui lui met 21 points, ils ont réussi à, je trouve, faire la différence dans un match qui aurait pu être plus compliqué si eux n'avaient pas été sur ce niveau-là. Et comme tu le disais, Milwaukee était trop juste. Milwaukee, avec Giannis, serait probablement... On peut supposer qu'avec un Giannis à 100%, la donne aurait été un peu différente. Là, Middleton ne fait pas un grand match. C'est Bobby Portis et Brook Lopez qui font le job en attaque, 20 points chacun, il me semble.
Énorme match de Bobby Portis, hein. Il fait 20 et 15.
Voilà, Portis,
15 rebonds aussi,
voilà. Portis fait ses matchs. Il était nommé pour le titre de 6e homme de l'année, c'est pas pour rien. C'est un très bon titulaire, c'est un très bon remplaçant. C'est un joueur. Parfois, on sait qu'il a les fils qui se touchent, mais ça reste un super bon joueur. Et ce que je retiens aussi, c'est que Milwaukee a pas, et c'est quasiment symptomatique depuis le début de la saison, avant même que qu'Adrian Griffin ne se fasse virer, que Doc Rivers arrive, qu'il y ait tous ces pépins qu'on a évoqués récemment. Défensivement, ça a jamais cliqué sur le long terme pour les Bucks, et cette nuit encore, t'as Indiana qui shoot à 54%, tu peux pas, sur un match de playoff, tu laisses shooter l'adversaire à 54%, c'est pas possible. Donc, il y a des joueurs qui individuellement sont de très bons défenseurs. Middleton, Brook Lopez, même Portis défend plus que convenablement. Giannis n'était pas là, certes, mais sur la défense collective, qui a été un de leurs meilleurs atouts quand ils ont gagné le titre en 2021, ça n'a jamais cliqué cette saison, durablement en tout cas. Il y a des périodes où on s'est dit « Ah, Doc Rivers a dit on va mettre l'accent sur la défense, ça va marcher. » Ça a marché quelques matchs, mais ça a replongé très rapidement. Et on ne peut pas s'empêcher de penser au départ de Jrue Holiday, qui était le patron défensif de l'équipe. Et ça a eu ces conséquences-là. Alors, ça, c'est plus global. C'est pas sur le match en lui-même, mais c'est ce que je retiens aussi de cette série qui est remportée par Indiana 4-2.
Ouais, je pense qu'il va y avoir pas mal d'introspection à faire du côté de Milwaukee cet été hein, pour tirer un peu le bilan de ce qui s'est passé ou de ce qui n'a pas fonctionné surtout cette année. Et puis voir pour la suite, sachant que la marge de manœuvre n'est pas évidente. On en reparlera, par exemple. On va pas trop développer dans ces QFR, mais le coach ne va pas changer. Les stars, il y a peu de chances qu'elles changent. À la marge, il n'y a pas tant de marge de manœuvre que ça. Bon, c'est compliqué. L'avenir s'annonce compliqué pour Milwaukee. Tu l'as dit, Brook Lopez très bon, Damien Lillard qui a quand même planté 28 points à 7 sur 16 au tir, il a tenu sa place. Bon, il avait clairement pas la capacité de faire plus. C'était déjà assez étonnant finalement de le voir sur le terrain. C'était intéressant. Il disait après le match que voilà, il se sentait pas. Il disait qu'il aurait mal vécu l'été de pas au moins essayer. Finalement, il est venu à l'échauffement. Il a vu que ça commençait à aller. Il a vu la salle se remplir. Il s'est dit bon allez vas-y, il faut que j'y aille. Et même chose du coup, tu parlais d'Obi Toppin, qui a fait un très bon match, 21 points, 8 rebonds, 2 passes en sortie du banc. C'était assez intéressant ce qu'il disait, que c'était TJ McConnell qui sortait d'un match désastreux au match précédent, qui était venu le voir, qui lui avait dit allez, vas-y, on va se remettre dedans, on va repartir et tout. Donc il soulignait, au-delà de ce que McConnell a apporté sur le terrain, il soulignait aussi le côté leadership qu'il avait pu apporter dans ce vestiaire qui est très jeune. Et McConnell, finalement, même si c'est pas forcément un joueur hyper identifié par le grand public, c'est, je pense qu'il joue vraiment ce rôle un peu de meneur à l'ancienne sur le terrain quand il y est, et aussi sur le banc en vestiaire, dans le vestiaire, etc.
C'est là l'intérêt d'avoir gardé ces joueurs-là. On le rappelle, les Pacers, il y a eu des tonnes de rumeurs de trade ces derniers mois, ces dernières années même, avec Miles Turner, avec McConnell. Enfin, il y a des offres qui ont été refusées de part et d'autre à plusieurs instants, quand on se demandait s'il leur manquait pas juste une pièce pour accompagner Haliburton. Avant qu'ils fassent le move pour Siakam, et ils ont réussi, ils ont tenu bon, ils ont gardé Turner, ils ont gardé McConnell, et c'est aussi des très bons choix de management et du GM qu'il faut souligner, parce qu'il y a le terrain avec le coach et les joueurs, mais les décisions qui se prennent plus haut parfois elles ont un impact important, et là sans ces roleplayers là, sans McConnell, sans Obi Toppin, Miles Turner n'est pas un roleplayer, hein, mais sans ces choix là je suis pas sûr que les Pacers en soient là, et ça fait plaisir de les revoir à ce niveau là la progression, ils sont peut-être même un poil en avance sur la marche sur leur tableau de marche. Je sais pas ce qu'ils avaient envisagé de leur côté, mais là les retrouver, ça fait quoi, ça fait 10 ans qu'ils ont pas passé un tour de playoff, hein, c'est ça, c'était l'époque de Paul George et compagnie, quand chaque année ils se heurtaient au Miami Heat. 10 ans, ça fait plaisir de les retrouver, et ça permet de déjà envisager cette demi-finale New York-Indiana un peu vintage, qui fait plaisir, qu'on a tellement vu dans les années 90 et un peu dans les années 2000. Ça va être, moi ça, voilà, ça me hype énormément cette série.
Ouais, absolument. Bah, tu l'as dit, ça sera le prochain tour du côté de la conférence Est. Je vous donne le programme ce soir. Donc vendredi, il y a deux matchs qui vont jouer. Le match 6 entre les Mavericks et les Clippers. Donc Dallas qui peut finir la série ce soir. Et le match 6 également entre les Cavaliers et le Magic. Deux matchs vraiment incertains, durs à scouter, hein, je trouve. On a vu dans ces deux séries parfois les meilleurs visages et les pires visages de chacune des quatre franchises. Donc ça va être passionnant à suivre. Nous, voilà, on le débrief. On fera tout ça lundi prochain dans le CQFR dans lequel on reviendra sur les matchs. Demain, samedi, vous pourrez retrouver ce à quoi il faut répondre, dans lequel on répondra à toutes vos questions. Voilà pour le programme. Est-ce que tu as vu dans l'actualité d'autres choses marquantes, Chai, que tu voulais souligner?
Il y a encore eu un trophée qui a été décerné, mais les trophées de l'ombre un peu, dont on parle jamais, dont on oublie un peu l'existence. Là, c'est le Hustle Award, en gros le trophée de la combativité des joueurs qui font le plus de qui provoquent le plus de fautes offensives, qui font des voilà de la grosse défense mais un peu masquée, des joueurs qui dont on imagine peut-être pas forcément gagner le titre de défenseur de l'année, mais qui le mériteraient peut-être. Et cette année, c'est Alex Caruso qui a été récompensé pour ce trophée. C'est sa première victoire. Tout à l'heure, je regardais, je savais même pas que ça existait depuis 2017, ce trophée. Je crois que c'était un des nouveaux qui avait été rajouté récemment quand ils ont changé le nom de tous les trophées. Mais ça fait déjà, c'est le 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, c'est la 8e année que ce trophée est remis. Est-ce que tu es capable de citer un autre vainqueur de ce trophée depuis 2017?
Alors attends, faut que je réfléchisse, qui peut être dans cette catégorie-là est-ce que Patrick Beverley l'a gagné?
Ouais, alors c'était le premier vainqueur originel, Patrick Beverley, en 2017, effectivement, sa seule victoire dans ce trophée. Je vais juste te donner un indice, il y a un joueur qui l'a gagné trois fois. Entre 2018 et 2023, il a gagné trois fois.
Ah, attends.
C'est le plus trouvable, en fait. Les autres, c'est
le plus trouvable. Ok, c'est le plus trouvable. Ah, bien sûr, là, j'ai aucune idée qui me vient en tête. Allez, donne-moi la conférence pour que j'ai un.
Conférence Est. Ah non, bah maintenant il a joué longtemps. Tous ses trophées, il les a gagnés avec une équipe de l'Est. Et
Ok.
il a changé d'équipe bah, l'année dernière. C'était pas son choix, il a été tradé.
PJ Tucker?
Non, plus jeune.
Ah.
Et
Ah, je vais pas trouver. Vas-y,
plutôt
je vais pas
meneur
trouver. Plus
arrière,
actif. Ouais.
c'était Marcus Smart.
Ah, bah oui, bien sûr.
Voilà.
Le...
Marcus Smart
Ultra logique.
2019,
Ouais.
2022, 2023, le Hustle Award. Les
Ils
autres
vont
sont
lui donner
trop.
le nom, ils vont donner son nom
Ouais,
au trophée, non?
c'est ça, je pense. Et alors, les autres, c'est compliqué. En 2018, et alors, j'aurais pas trouvé. 2018, Amir Johnson, quand il jouait aux Sixers. Alors que dans ma tête, Amir Johnson, c'est plus vieux que ça, mais bon, en fin de carrière, visiblement,
Il a gagné.
il a eu le Hustle Award.
Mais avec son déambulateur ou quoi? Parce que à ce moment-là,
sais
sa
pas.
carrière, c'était.
Mais lui, les jeunes, c'est pas lui le dernier qui avait fait le saut lycée NBA, je crois. Peut-être qu'il
Attends, tu vois,
était.
c'est que je dois même me gourer de joueurs en fait.
Et ben là, il a que 37 ans actuellement, mais il
Hein?
joue plus depuis
Ouais, quand
en
même.
NBA depuis 2019. Voilà, c'était sa dernière saison quasiment quand il a eu ce trophée.
Ok.
Et on a eu en 2020 Montrezl Harrell quand il jouait aux
Comment
Clippers.
ça? C'est bien le Amir Johnson que je pensais, hein, par... je maintiens mon coup truc sur le
C'était bien
déambulateur.
lui. Et Montrezl Harrell en 2020. Thaddeus Young en 2021. Et voilà, ça fait, on a nos 8 vainqueurs avec Smart qui a raflé 3 trophées. Mais ça fait
Ok.
partie des. Il y a toujours des trophées comme ça qu'on oublie un peu. Le trophée du meilleur gars de la communauté, le champion de la justice, le Citizenship Award. Enfin, parfois, on se mélange. Donc, bah, c'est très bien que ces joueurs-là soient récompensés aussi. Hein. J'espère que ça
Non,
s'accompagne d'une petite prime voilà, et d'un trophée sympa à mettre dans l'armoire.
mais c'est cool pour Caruso, en tout cas, qui était certainement l'un, voire le meilleur défenseur arrière cette année. Enfin, il était en tout cas dans le top, je pense, des meilleurs défenseurs
Ouais.
pour un extérieur à son poste. Donc c'est cool pour Caruso, ouais. Je trouve ça plutôt
Ça
sympa.
reste le meilleur chauve de la NBA. Voilà. C'est dans les cœurs, le divin chauve, c'est Alex Caruso, vous le savez. Voilà.
Le meilleur sosie de Elmer Fudge également. Allez, on va refermer là ce CQFR. Comme je vous le disais, on vous retrouve malgré tout demain matin avec Shai pour vous répondre à vos questions. Toute l'actu reste sur Basket Session tout le week-end. D'ailleurs, bien sûr, on ne fera pas de CQFR pour débriefer les matchs ce week-end, mais il y aura par contre toutes les infos, les récaps, etc. sur basketsession.com. Et on vous dit à très vite. Profitez bien des playoffs. Nous, malgré la fatigue, on kiffe. On attendait ce moment-là depuis le début de l'année, donc on profite à plein. À plus tard.
Bonne journée.